Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show,
Benoît
Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans le RMC Football Show, on est ensemble jusqu'à 20h comme tous les soirs avec Fred Piquionne, mon fidèle adjoint qui est à mes côtés. Salut Fred.
Bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
On s'est régalé sur cette journée olympique, magnifique titre olympique pour Clarisse Agbenienou en judo, c'était fantastique, évidemment.
Elle reviendra.
Elle a gagné, bravo, t'as bien suivi, parce que je vois. Elle a gagné, elle est porte-drapeau et on en reparlera évidemment, vous l'entendrez à partir de 20h avec Adrien Aigouin, forcément. Mais la une du RMC Football Show, c'est bien sûr le mercato du PSG après Ramos, Donnarumma, Wijnaldum ou encore Hakimi. Paris va s'activer cette semaine pour recruter Paul Pogba. Est-ce que le PSG doit tout mettre en œuvre pour faire venir Pogba dès cette saison, 32-16, pour participer au débat. À 18h30, une veille de match pour l'équipe de France aux Jeux de Tokyo 2020. Justement, les Bleus affronteront le Japon demain matin. Ils vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique. Ont-ils justement les moyens d'obtenir cette place pour les quarts? On en parlera avec Fred et vous au 32-16. Et puis à 18h45, le Mercato Show. Mamadou Sakho qui revient en Ligue 1. Il rejoint officiellement le club de Montpellier.
La une du RMC Football Show.
Le PSG lancera officiellement sa saison dimanche à l'occasion du Trophée des Champions contre Lille. Coup d'envoi 20h sur RMC ce soir. Dernier match de préparation pour les Parisiens. Ce sera face au FC Séville. Match qui se dispute au Portugal. Paris qui est très actif sur le marché des transferts. Un mercato XXL réalisé par le directeur sportif Leonardo depuis le début de cet été. Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport, a toutes les infos. Il nous rejoint. Salut Nico. Nico, on va lui allumer le micro, voilà, il est bien là, Nico. Oui, c'est bon.
Ouais, c'est bon.
Nico, tu vas nous faire le point justement sur ce mercato parisien pour l'instant, les arrivées et les départs également, Nico.
Alors au rayon des arrivées, on va commencer par celle qui a coûté la plus chère, le plus d'argent au PSG cet été avec la signature d'Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan pour plus de 70 millions d'euros bonus compris. Il y a eu aussi un mercato intelligent du côté parisien avec l'arrivée de trois joueurs libres, le gardien de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma, le milieu néerlandais de Liverpool Wijnaldum et donc le défenseur central Sergio Ramos en provenance du Real Madrid. Autre dépense, le PSG a levé l'option d'achat de Danilo Pereira, estimé à 16 millions d'euros. Mais pour équilibrer ses finances, Paris doit aussi vendre. Pour le moment, le côté de la balance des départs ne pèse pas lourd. Il n'y a eu que Mitchell Baker, parti au Bayern Leverkusen en Bundesliga, pour un peu moins de 10 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que le PSG a aussi enregistré les fins de prêt de Florenzi et de Moeskin. Ouais. Et enfin, Paris essaye aussi de faire un ménage chez les gardiens avec Garrison Innocent, qui a été prêté hier à Vannes en National 2 pour cette nouvelle saison.
Alors l'info RMC Sport, celle qui intéresse forcément les supporters parisiens aujourd'hui, c'est que le PSG va bouger cette semaine pour tenter de recruter Paul Pogba, hein, Nico.
Alors, ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, selon les informations de la cellule Mercato de RMC Sport, Paul Pogba a envie de venir au PSG, mais pour le moment, aucune offre n'a été réalisée par le club de la capitale pour recruter le milieu de terrain de Manchester United. Mais cette situation pourrait bientôt évoluer avec des contacts qui devraient réellement débuter dans les prochains jours concernant le transfert de l'international français. On rappelle un élément important dans ce dossier, c'est qu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Paul Pogba avec Manchester United, soit jusqu'en juin 2022. Et pour finir, Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Liverpool, de Manchester United, a évoqué le dossier Pogba ce week-end. Il a juste dit « Des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et ceux du club. Tout ce qu'on s'est dit avec Paul Pogba, c'est qu'il attendait la saison avec impatience. Une façon de dire que pour le moment, il compte sur lui pour la reprise de la saison. »
Forcément, c'est une posture de la part du coach de Manchester United. Merci Nico, tu restes avec nous. Le PSG doit-il tout mettre en œuvre pour faire venir Pogba dès cette saison, 32-16, Direct Studio, hashtag RMC Live pour participer avec nous. Fred, quel est ton avis? Quelle réponse tu donnes à cette question? Est-ce que ton avis, il faut s'activer à Paris pour faire venir Paul dès cet été?
Je ne sais pas s'il faut s'activer, mais c'est quand même un joueur de classe mondiale. C'est quand même un très très bon joueur quand il est à 100%. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a et les interrogations, c'est beaucoup, et je vois un peu partout que oui, Paul Pogba, il est souvent blessé, il est intermittent du spectacle, il est ceci, il est cela. Mais pour moi, c'est quelqu'un que s'il a envie de, il a déjà envie de venir au Paris Saint-Germain. S'il a envie de venir au Paris Saint-Germain, le coach en place, Pochettino, je pense aussi qu'il veut un Paul Pogba. Et que ça, déjà, Paul Pogba, c'est quelqu'un qui marche aussi à la confiance. Et donc pour moi c'est une opportunité du marché. Aujourd'hui on voit que le fair play financier est un petit peu mis de côté par les instances et donc il faut profiter. Je pense que Paris peut et doit profiter de cette opportunité pour recruter Paul Pogba.
Et tu as dit le bon mot, c'est l'opportunité de faire signer Pogba. Effectivement, il est dans la dernière année de son contrat. C'est toute la question en fait. Est-ce que tu attends 6 mois pour essayer de le faire signer libre pour la saison prochaine ou est-ce que tu actives tout dès cet été? C'est forcément l'objet des négociations entre Paris
bien
et
évidemment.
Manchester United. Après, Fred, on va pas se mentir, le secteur du milieu de terrain est plutôt fourni. Hein. Oui. J'avais noté justement les joueurs dans ce secteur. Ça fait beaucoup, forcément, puisque on a des joueurs comme Danilo, Gueye, Verratti, Wijnaldum, Herrera, Paredes. Ça fait déjà 6 joueurs. Il faut voir dans quel schéma tactique va évoluer le PSG sous Pochettino, mais il y aura de la concurrence. Est-ce que c'est vraiment le profil dont tu as besoin pour renforcer ton effectif?
Bah, c'est un profil différent, c'est un profil, oui, je pense que c'est un profil qu'il faut avoir au Paris Saint-Germain, au-delà de l'opportunité du marché. Oui, Paul Pogba peut rentrer dans ce système, qu'il soit titulaire ou même dans une rotation assez importante, parce que Paris aussi a besoin de jouer les matchs de championnat. Il faut qu'il retrouve la couronne qu'ils ont laissé tomber la saison dernière pour remporter cette Ligue 1, mais surtout ça sera sur la scène européenne. On aura besoin de joueurs confirmés, de joueurs expérimentés, et Paul Pogba en fait partie. Donc oui, Paris doit aller le chercher, si c'est pas si, parce que Paul a apparemment envie de venir, mais si Paris a l'opportunité d'aller le chercher et que ça rentre dans la masse salariale parisienne, et ben qui fonce. Après, bien évidemment, il y aura des déçus, il y aura des joueurs qui ont un très très bon salaire au Paris Saint-Germain qui devront partir.
Ah oui.
Ils devront s'asseoir, soit Paris aussi, ils devront s'asseoir aussi peut-être sur leur salaire dans d'autres clubs, soit sûrement. Et voilà. Après, bon. Tout peut se négocier entre des prêts, options d'achat, pas des prêts en payant un peu le salaire, un pourcentage sur le salaire. Il y a plein de choses dans le football aujourd'hui.
Et tu as raison, et Nico Pelletier qui est toujours avec nous, qui est journaliste à RMC Sport, donc nous le disait, pour l'instant au niveau des ventes, il n'y a que Michel Bakker qui est parti.
Ouais, ça fait 10 millions d'euros.
Il n'y a que sur ce transfert-là que tu as touché une indemnité de transfert.
10 millions d'euros, c'est le seul montant, et 70 millions dépensés, plus les 16 millions de Danilo Pereira, donc ça fait 86 millions d'euros dépensés.
Voilà. Et on rappelle qu'il y avait un accord trouvé entre Paris et Galatasaray pour Levin Kurzawa, mais qu'il n'ira pas, puisqu'il n'a pas trouvé d'accord, lui, avec le club stambouliote. Donc, c'est un transfert qui n'est pas fait et qui ne se fera pas, quoi qu'il arrive. Kurzawa n'ira pas là-bas. 18h08, on parle de l'avenir du PSG, le recrutement du PSG, et pourquoi pas la tentation Pogba, hein, avec ce qu'on vous disait, Paris qui devrait s'activer cette semaine pour tenter de recruter Paul Pogba. Vous venez participer donc au 32-16 sur le hashtag RMC Live ou encore sur Direct Studio. Ce qui nous surprend aussi, Fred, c'est que certains doutent de l'état physique de Paul Pogba, alors que je rappelle juste ses stats, il a 28 ans, il a joué 57 matchs la saison dernière avec Manchester United, 8 buts, 8 passes décisives. C'est quand même un joueur assez régulier. Il y a eu des choix de Solskjaer qu'il ne faisait pas systématiquement jouer, mais physiquement, il était là et il a été présent toute la saison.
C'est pas qu'il ne le faisait pas jouer, c'est qu'à un moment donné, Paul Pogba, il a eu une grosse, grosse blessure, c'était en 2019, de la cheville, et qui a duré plus de 160 jours. Et oui, à un moment donné, quand t'as une grosse blessure comme ça, il faut du temps pour revenir. Et même quand t'as du temps pour revenir, et quand t'as l'intensité que mettent les matchs de Première Ligue, eh ben un peu, des fois t'es un petit peu déséquilibré au niveau de ton corps, donc t'as des petites élongations. Et puis il faut pas oublier qu'il a eu aussi le Covid. Donc oui, quand t'es moins bien, je pense que le coach le met pas. Mais à partir du moment où il est revenu à 100%, même dans les gros matchs, il y avait McTominay et Fred dans le milieu, mais Paul Pogba était un peu milieu gauche.
Il jouait plus haut.
Il jouait un petit peu plus haut. Ouais, c'est un rôle qu'il adore, ce rôle sur le côté gauche. Donc, et c'est là qu'il a fait aussi des bons matchs. On le voyait rayonnant, il frappait, il défendait, il était bien sur le terrain. Et on l'a vu aussi à la Coupe du Monde. Je suis désolé, mais il a fait une la Coupe du Monde maintenant.
À l'Euro.
Ouais. On a vu un Paul Pogba à l'Euro.
Vrai poste de récupérateur
et très satisfaisant dans sa manière de jouer. Dans sa faculté aussi à transmettre de bons ballons, à frapper au but aussi, ça a été très important. On a vu Marie qu'il a marqué des super buts. Donc oui, non, c'est il y aura pas d'interrogation sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il est, je le vois un peu sur les réseaux, je le suis, il est tu vois qu'il bosse pour venir encore plus fort.
18h10 sur RMC, on parle du recrutement du Paris Saint-Germain et de la possible venue de Paul Pogba. On vous rappelle cette info RMC Sport, évidemment. Les contacts n'ont pas encore établi, mais Paris devrait bouger cette semaine et faire un pas vers Manchester pour l'avenir de Paul Pogba. Je rappelle qu'il est dans sa dernière année de contrat à Manchester United. On donne la parole à Thomas, supporter parisien, qui nous appelle au 32-16. Salut Thomas.
Ouais, salut les gars.
Salut Thomas.
Est-ce que tu es excité par cette idée, pourquoi pas, de voir Pogba débarquer à Paris?
Je suis plus. C'est pas l'adjectif que j'emploie, tu vois, parce que c'est plus. Pas craintif, mais que. J'attendrai de voir.
Des interrogations.
Des interrogations, comme beaucoup de supporters, ouais. Je pense, de toute façon. Parce qu'on connaît, en fait, on connaît le Pogba de l'équipe de France, qui peut se mettre en mode tournoi, en mode vraiment joueur de très très haut niveau, hein, quand il est comme à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Et le Pogba, qui connaît un peu des blessures sur l'année, qui ralentit un peu en club. Enfin, voilà, il y a vraiment deux joueurs, hein, distincts, quoi. Donc, après, il y a quelque chose que je remarque, moi, forcément, et ça, c'est factuel, hein, quand on est au PSG. Des matchs importants dans la saison, il y en a quoi? Il y en a, allez, une vingtaine, peut-être, où il faut vraiment être présent, décisif et assumer son statut. Les matchs de Ligue 1, on est peut-être un peu moins regardant, quoi que ce soit. Et peut-être que
rappelons que t'as pas été champion de France la saison dernière, quand même.
C'est vrai. Ça arrive une fois tous les. C'est.
On t'en a perdu des matchs qui n'étaient pas importants sur le papier et qui t'ont coûté.
Bon,
le titre.
C'est reparti un autre débat, mais quand tu commences l'année d'avant avec des cas de Covid, des résés que tu dois aligner à Lens et tout, etc. Bon, on est parti quand même avec des sacrés handicaps. La saison dernière, avec le Covid, etc. Après, moi, je pense qu'un joueur comme ça peut quand même. Alors après, en termes de plus-value, ça peut quand même amener quelque chose à ton équipe. Ça, c'est indéniable. Il a quand même des qualités. Il a un profil forcément au milieu qui est très intéressant. Mais le Pogba de l'équipe de France, s'il réitère des prestations en Ligue des Champions de ce niveau-là, forcément, il sera intéressant pour Paris. Mais il y a ce côté-là, comme disait Fred, un peu interrogation, où on est assez sceptique parce qu'on a quand même vu Pogba des fois en Première Ligue. Et voilà, alors après, il y a toujours beaucoup d'éléments qui font un bon joueur, c'est-à-dire être dans le bon, enfin, évoluer dans un bon contexte, dans le bon club, avec les bons partenaires. Enfin, voilà, il y a toujours beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais il y aura cette petite appréhension d'un éventuel transfert, mais voilà, moi je reste quand même pour sa venue, bien évidemment.
Tu comprends la démarche parisienne, si jamais le PSG, effectivement, comme on l'annonce, donc démarre des négociations avec Manchester, c'est plus une opportunité, hein, comme aime le dire Leonardo, comme ce qu'il a fait avec Sergio Ramos, comme ce qu'il a fait avec Donnarumma, oui. Plutôt qu'un besoin vital pour le PSG, parce qu'on le dit, le secteur de jeu est très fourni. Tu vois ça comme ça aussi, Thomas?
Ouais, je pense que c'est exactement ça, de toute façon. Je veux dire, si demain tu commences ta saison avec Verratti, Paredes, Wijnaldum, Danilo, je veux dire, tu restes quand même armé au milieu de terrain. Maintenant, on sait aussi que Paris connaît beaucoup de blessures, beaucoup de voilà durant toute l'année. Il y a un moment des rendez-vous des fois en Ligue des Champions où il y a que deux ou trois milieux. Ça peut aussi être une opportunité aussi de prendre un joueur supplémentaire de haut niveau et de vraiment fournir l'entrejeu. Mais voilà, je pense que ça reste une opportunité de marcher à un an de la fin de son contrat. Je pense que le prix sera quand même accessible, mais c'est pas un besoin vital forcément. Paris n'a pas un besoin vital de Pogba demain, quoi, pour démarrer sa saison. Voilà.
Merci Thomas d'avoir été avec nous 32-16.
Merci Thomas.
Tu reviens quand tu veux pour parler du PSG. 18h14 sur RMC. On va continuer de parler de ce dossier Pogba, pourquoi pas au PSG, dans un instant avec Fred Piquen. Nico Pelletier est là également. On va se demander s'il n'y avait pas d'autres chantiers prioritaires justement dans cet effectif. Je pense au poste latéral gauche, pourquoi pas. En tout cas, on va parler de ça. Et puis on va également vous rediffuser ce qu'a dit Jorginho Wijnaldum, qui a été rencontré par les équipes d'RMC Sport la semaine dernière. Il a parlé du cas Paul Pogba. Vous l'entendrez. À tout de suite sur RMC.
Football Show, Benoît Boutron.
Avec l'excellent Fred Piquion jusqu'à 20h sur RMC. Dans une demi-heure, on fait le point sur toute l'actu mercato de la journée. Je vous rappelle que Mamadou Sakho est de retour en Ligue 1, pas à Paris, mais à Montpellier. Et puis nous, tout de suite, on parle du mercato parisien. Il est déjà XXL, il pourrait l'être encore plus si jamais il arrive, ce Paris Saint-Germain, à faire venir Paul Pogba. L'info qu'on vous donne aujourd'hui, c'est que Paris devrait démarrer les négociations cette semaine avec Manchester pour tenter d'attirer Paul Pogba. Nico Pelletier est là toujours. Effectivement, il faudra voir comment tout cela s'organise. Mais Fred, on le disait, il y avait peut-être d'autres chantiers prioritaires pour le PSG. On pense à ce poste de latéral gauche. Si Paris veut faire partir Kurzawa, tu n'as plus que Juan Bernat qui va reprendre l'entraînement collectif début août.
Ouais.
C'est le vrai poste où tu as une interrogation aujourd'hui.
Bah, pour l'instant, il fait jeu Diallo à la place.
Oui, en plus.
Pour l'instant. Ouais. Donc Bernat, oui, il va peut-être arriver un petit peu après, surtout sur les phases offensives où il est bien meilleur. On a besoin de centres et de bonnes passes décisives sur le côté. Maintenant, est-ce que Paris a les moyens d'aller chercher encore un autre joueur? S'ils vont chercher Pogba à 40, entre 40 et 50, est-ce qu'ils ont après encore les moyens d'aller chercher un autre joueur très cher? Parce qu'aujourd'hui, les équipes vont se dire, ah tiens, c'est Paris Saint-Germain qui va toquer à la porte, bah je vais augmenter mon prix de 4, 5, parce que c'est aussi une priorité pour le Paris Saint-Germain. Voilà, il va falloir quand même être prudent.
Il faudra peut-être vendre aussi au milieu de terrain.
Et il faudra vendre au milieu de terrain,
bien sûr,
c'est clair.
Fourni, du coup.
On est beaucoup trop. Alors, pourquoi avoir refait signer Danilo? Peut-être qu'on n'avait pas encore pensé à Pogba.
Mais est-ce que c'était pas une option d'achat automatique, Danilo?
Oui, aussi, c'est pratiquement ça.
Ouais, c'est sûr.
C'était ça, pratiquement, de lever l'option d'achat. Maintenant, il peut aussi repartir aussi vite qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Mmh. C'est aussi une option.
Alors, justement, une option. Si on se projette un peu, imaginons que le rêve de certains supporters parisiens se réalise et que Pogba signe à Paris.
Attends, je suis en train de faire mon équipe.
Voilà, comment tu les ferais jouer? C'est ça la question. Parce que quand on a vu Ramos débarquer à Paris, on s'est dit, bon, génial, Paris va passer à une défense à 3 avec Ramos, Marquinhos, exactement, Kimpembe. T'auras du coup deux récupérateurs avec Wijnaldum et Verratti, les pistons avec Hakimi et supposons Bernat. Après, t'auras Neymar avec Di Maria et Mbappé ou alors Icardi qui rentrent dans cette rotation. Là, ça change des choses quand même. Et une nouvelle fois, Paris a longtemps espéré cette fameuse sentinelle, entre guillemets, au milieu de terrain, un joueur capable de jouer juste devant la défense. On rappelle que Tourelle faisait jouer Marquinhos à ce poste-là.
Oui, parce qu'on
n'a pas de réelle sentinelle, mis à part Danilo, justement, qui, lui, c'est peut-être son poste de prédilection.
Tout à fait.
Verratti n'est pas une sentinelle. Wijnaldum non plus, c'est plutôt un numéro 8, on l'a expliqué la semaine dernière. Et Pogba non plus.
Non, mais tout va conditionner, en fait, le système de Pochettino. Aujourd'hui, Pochettino, c'est quand même quelqu'un qui est adepte du 4-2-3-1.
Ouais.
Et même pendant les matchs amicaux, il continue à le faire,
ouais,
avec différentes manières de fonctionner ou même de différents joueurs. Mais l'animation reste la même, enfin le système reste le même et l'animation peut changer en cours de match ou même pendant le match puisque les joueurs ne restent pas forcément à leur poste. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a ou peut-être ce qu'on aura, bon, si je mets Pogba dans la balance, je mets Navas dans les buts.
Ouais.
Qui démarrait le championnat.
Oui, ça c'est sûr, puisque Donnarumma reprendra plus tard.
Hakimi à droite, Marquinhos Kimpembe, pour moi. Bernat à gauche. Mais je pense que ça sera plutôt Diallo, puisque Bernat, ça fait...
Tu mets Marquinhos Kimpembe, parce que Ramos est blessé. Hein.
Non, je mets Marquinhos Kimpembe, parce que je pense que Ramos, même si avec tout l'aura qu'il a et tout ce qu'il a gagné, je pense que c'est bien de le faire rentrer dans une rotation. Il a quand même 35 ans.
Ouais.
C'est quelqu'un qui peut aussi se blesser énormément. Il faut faire attention comment l'utiliser.
Mm.
Ensuite, dans le milieu de terrain, je mets Wijnaldum avec Pogba. Enfin, si c'est Pogba qui arrive.
Mm.
Ou Wijnaldum. et après, je mets Di Maria, Verratti.
L'équipe de PlayStation.
Di Maria. Attends, mais c'est ça. Di Maria à droite, Verratti dans l'axe.
Neymar
à gauche et Mbappé devant.
Ça fait une sacrée.
Tu vas pas mettre.
Maintenant, on a du mal à y croire. C'est vrai que bon, il y a pas de négociation en cours. On vous le rappelle entre Pogba et entre Manchester et Paris pour Pogba. Mais ce qu'on peut vous dire aujourd'hui à RMC Sport, c'est que les négos pourraient et devraient démarrer cette semaine. En tout cas, Paris qui devrait passer à l'offensive.
Un Wijnaldum Paredes, ça peut être sympa aussi. Un Wijnaldum Gay, ça peut être sympa aussi.
Si ta défense à 4, tu peux aussi imaginer, je sais pas comment tu t'organises, mais Verratti, Wijnaldum, Pogba et devant Neymar, Mbappé, Di Maria.
Voilà. Aussi.
Donnons la parole à Gabriel, justement, autre supporter parisien qui nous appelle au 32-16. Salut Gabriel.
Et bonsoir messieurs,
bonsoir Gabriel.
Bon, toi t'as beaucoup moins de doutes, pour toi faut foncer sur le dossier Pogba. Hein.
Bah oui, je comprends même pas en fait qu'on se pose la question. Quand on a un joueur de ce calibre-là, avec ce talent-là, on a la possibilité d'aller le chercher. Ah ouais, faut aller le chercher. En plus, il y a plusieurs raisons qui me poussent à dire ça. Déjà, d'un point de vue relationnel, il a quand même pas mal de potes qui jouent avec lui au PSG. Donc, en termes d'état d'esprit, d'adaptation, ça va faciliter les choses. Derrière, dans le système, Fred l'a dit, il y a plein de systèmes, mais à mon sens, si on prend Pogba, c'est pour jouer en 4-3-3. Pogba, il est jamais aussi bon que quand il est en milieu box-to-box avec un 6 derrière lui, Wijnaldum, Verratti, ce que vous voulez. Vous le mettez lui côté gauche et c'est là où il est le plus fort. Ses meilleurs matchs cette année avec Manchester United, il a porté l'équipe quand il a été à ce poste-là. Dès qu'on l'a fait jouer sur un double pivot ou sur un poste plus défensif, ça a été moins bon.
Ouais.
Et je pense pas que ça soit l'idée de Pochettino de le faire venir et de le faire jouer 6.
Donc Gabriel, si tu pars dans cette idée-là, ça veut dire que tu fais pas de défense à 3. Ce qu'on avait imaginé avec Ramos, Kimpembe, Marquinhos.
Alors après,
son numéro 10,
si tu peux faire, ouais. À un moment donné, faut aussi on peut pas à l'heure actuelle dans le football, on peut pas se cantonner à un seul système.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de matchs à disputer.
Ouais, voilà, il vous faut quand même plusieurs joueurs. Donc il va falloir à un moment, changer les systèmes. On peut tout à fait jouer en 3-4-1-2, 3-4-3 avec effectivement des pivots et trois centraux et mettre Pogba dans ce cas-là sur le banc pour le faire tourner, souffler. Ça peut, voilà, après
c'est de la rotation, c'est le management de Pochettino et surtout voilà, gérer, c'est à lui de gérer les égos. C'est à lui de dire voilà.
Technique individuelle, tactique. Je comprends même pas qu'on se pose la discussion, savoir. Oh ben est-ce que je prends Pogba ou pas? Bah oui, évidemment, on le prend.
T'es d'accord que c'est une opportunité à ne pas manquer pour Leonardo, quoi. Aller attaquer des négos, sachant qu'il a plus qu'un an de contrat, quoi.
Ouais, mais oui, complètement. Bah, complètement. On voit avec Mbappé comment c'est compliqué là. Eh ben, faut faire la même chose. Après tout, les autres, ils nous font pas de cadeaux. Je vois pas pourquoi on leur en fait.
De toute façon, son agent Raiola, il doit se frotter les mains aussi. Donc,
il va prendre un beau chèque à l'arrivée si ça se fait. Donc, lui, il est plutôt pour, évidemment, mais.
Évidemment, en tout cas, on attend de suivre tout ça, mais il y a beaucoup de sujets qui entourent donc Paul Pogba, sa venue. On rappelle qu'il y a eu aussi quelques polémiques le week-end dernier. Il y a eu des banderoles affichées au Camp des Loges et au Parc des Princes, ouais. Une banderole, et effectivement, les groupes de supporters se sont désolidarisés et sont plutôt favorables a priori à l'idée d'accueillir Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Donc, il y a pas de mouvement de supporters anti-Pogba comme on aurait pu le penser au départ, Gabriel.
Non, pas que je sache. Après, effectivement, je les ai vus par les banderoles. Ça me paraissait bizarre que ce soit quand même le cup ou des associations historiques, sachant que il est francilien. Bon, lui, il a jamais craché sur Paris. Il a jamais dit non à Paris. Ça paraît un peu. C'est plus sa famille en fait. En gros, on lui fait le procès en fait de sa famille qui est plutôt supporter de l'OM que de Paris. Bon, après, ses parents, je vais rien dire, mais ça peut paraître normal au vu de l'histoire des deux clubs que ses parents aient à un moment donné basculé côté OM. Les années 80-90, c'est l'OM, c'est pas nous, donc c'est pas choquant en soi. Mais lui, il a jamais dit quoi que ce soit dans les médias sur Paris ou craché sur Paris, même après l'arrivée des Qataris et autres. Au contraire, je trouve qu'il a toujours, il s'est souvent dans les interviews. Garder cette porte de sortie en brossant le club de la
capitale. Parce que, rappelle-toi, il y a eu des sourires en zone mixte avec Presnel Kimpembe, justement, qui se commençait à le taquiner. Il n'avait pas répondu. Il avait été assez intelligent, Paul Pogba, pour ne pas répondre. Évidemment, parce qu'il sait la pression qui pèse sur ses épaules et la pression médiatique, forcément. Mais il a toujours eu cette intelligence de ne se fermer aucune porte. Donc, t'as raison.
Ouais, et puis la pression médiatique, il l'aura forcément. Ah oui, on arrive au Paris Saint-Germain, c'est obligé. Ouais. Et puis la pression aussi, je veux dire, c'est une icône mondiale, donc forcément dans la rue il va être reconnu, reconnu. Ça va être, c'est quand même quelqu'un qui est très très regardé sur les réseaux sociaux. Donc oui, à Paris ça va être aussi autre chose.
Mais Gabriel, pour terminer, tu te dis pas que le meilleur coup pour Paris, c'est peut-être d'attendre 6 mois, le signer libre pour la saison prochaine et te concentrer sur des chantiers prioritaires comme on le disait, le poste de latéral gauche par exemple?
Bah, je pense que financièrement, on peut faire les deux. La Pogba, effectivement,
ça fait beaucoup.
La Pogba, c'est 50 millions. On sait qu'on va vendre. Donc, il y a des joueurs qui sont clairement sur le départ. Oui, le poste de latéral gauche, ça me paraît très important. Maintenant, la rotation au milieu de terrain, on l'a vu l'année dernière, elle est super importante. Si au milieu de terrain, vos postes sont pas doublés et vu le niveau d'exigence aujourd'hui du club et notamment en Coupe d'Europe, vous êtes obligé d'avoir des joueurs à ces postes-là, quasiment 5-6 internationaux, si vraiment vous voulez être compétitif tout le temps en permanence, sachant qu'il peut encore y avoir des blessures, la saison va encore être longue quand même malgré tout, parce que là on sort d'un euro, enfin voilà, les mecs, ça fait quand même 2 ans d'affilée quasiment, même s'il y a eu la coupure Covid pour certains, l'an dernier, la Ligue 1, ça a commencé en septembre, ça s'est fini en juin, le PSG, avec les internationaux, parce que c'est essentiellement des internationaux, ils ont joué toute la saison, tous les 3 jours. Je pense que le club ne veut pas prendre de risques sur les blessures. On s'est quand même retrouvé l'année dernière avec quasiment 20 joueurs à l'infirmerie et à devoir bricoler des matchs avec 6 jeunes du centre de formation.
Oui, c'était ça le souci aussi. Donc, comme tu l'as dit, pour être compétitif, il faut quand même doubler les postes et voire même aller chercher des grands joueurs et mettre même deux gros joueurs à chaque poste.
Et après, c'est le travail de Pochettino de faire jouer les meilleurs, effectivement. Merci Gabriel d'avoir appelé au 32-16. À bientôt sur RMC.
De rien, bonne soirée à vous.
Bonne soirée à toi. Je rappelle l'actu chaude pour Paris, c'est ce match amical au Portugal ce soir, donc face au FC Séville. Avec quelques gros noms hein, qui vont être a priori titularisés au coup d'envoi. Je vous les donne: Navas, Hakimi, bon, il y aura Kerrer, Diallo, Kurzawa, Herrera, Gay, Draxler, Icardi, plus a priori deux Titi parisiens. On rappelle que la saison, ça repart dimanche. Pour le PSG. Le trophée des champions à vivre en direct sur RMC à partir de 20h. Ça se dispute en Israël face au LOSC. Donc voilà, les choses sérieuses reprennent.
Est-ce que justement Mbappé, il était revenu depuis la semaine dernière?
Il a repris l'entraînement.
Il a repris. Est-ce qu'il est dans le groupe?
Ah, pour ce soir?
Ce soir, oui.
Je crois pas, non.
Non,
pas dans le groupe ce soir. En revanche, je crois qu'il postule pour une place dans le groupe en Israël pour le trophée des champions. Effectivement, tous ces dossiers-là sont à suivre, tout comme les Sud-Américains d'ailleurs. En revanche, on vous le dit, parce que c'est l'info de la matinée, il n'y aura pas de Sergio Ramos ni ce soir, ni au trophée des champions. Voilà, petite blessure au mollet pour Sergio Ramos.
Bah oui, quand
on le verra pour.
Mais c'est vrai. Non, mais tout à l'heure, on parle, Sergio Ramos, normalement, il doit jouer. Mais non, Sergio Ramos, il faut le gérer. Attention, parce qu'à 35 ans, on n'a plus physiquement, physiologiquement, on n'a plus les mêmes réflexes qu'avant et c'est un peu plus long.
Il faut bien gérer les petits pépins dès le début, sinon ça peut se traîner toute la saison.
Surtout le mollet.
C'est vrai. 18h28 sur AMC, Nico Pelletier, merci. On se retrouve tout à l'heure pour le Mercato Show. Et nous, dans un instant, on parle de l'équipe de France Olympique, Fred.
Ah, ça y est.
Un grand défi demain pour nos Bleus face au Japon, pays organisateur, et une chance, pourquoi pas, de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. À tout de suite sur AMC.
Football Show,
Benoît Boutron, avec Patrick Cohn jusqu'à 20h sur AMC. Et je vous signale que dans un quart d'heure, on parle du Mercato, le Mercato Show, évidemment, avec cette info principale. C'est Mamadou Sakho qui est officiellement de retour en Ligue 1. Il s'est engagé avec le club de Montpellier. Vous aurez tous les détails dans un quart d'heure. Mais vous le savez, l'actu, c'est également les Jeux Olympiques, avec cette magnifique médaille d'or pour Clarisse Agbegnénou ce midi en judo, porte-drapeau de la délégation française. Elle est allée chercher le titre olympique qui lui manquait. On a également eu une médaille de bronze en taekwondo. Et les Bleus du foot sont toujours en compétition, eux aussi, objectif quart de finale pour les partenaires d'André-Pierre Gignac. Je rappelle qu'ils ont été balayés 4-1 par le Mexique en match d'ouverture. Ensuite, ils ont battu l'Afrique du Sud 4-3 dans un match complètement dingue. Ils affronteront le Japon, premier du groupe et pays organisateur, demain. Coup d'envoi à 13h30 à Yokohama. Rencontre à suivre sur RMC, évidemment. Fred, on avait envie d'en parler ce soir, évidemment. On est en veille de match. Tu as regardé les deux premières rencontres. Qu'est-ce que tu retiens? Tu te dis que c'est peut-être un miracle encore qu'on soit encore
en lice. Bien sûr, on en a parlé
dans cette compétition, la dernière fois. Dingue.
Le miracle était sur le match dernier où t'es dominé sur la première mi-temps.
T'es mené trois fois au score.
T'as un penalty raté. T'as un poteau aussi avec beaucoup d'opportunisme et de spontanéité. L'attaquant il met une frappe et tu vois Bernardoni qui est sur les talons et le ballon qui est repoussé par le poteau. Après, en deuxième mi-temps, t'es tout emmené, mais t'arrives quand même à arracher le match. Et puis à la fin, la dernière seconde, dernière minute, qui vient de nulle part, un petit peu dur magnifique. Parce que franchement, c'est magnifique.
Mais tu t'y attends pas du tout.
Tu vois Gignac qui fait un dernier effort, il va s'arracher, qui lui met ce ballon dans la surface de réparation. Et puis voilà, tu gagnes ce match qui te permet de rester en vie finalement, parce que demain, il va falloir tu joues contre le pays hôte.
Ouais.
Donc il va
qui est être premier du groupe
en qui plus. Est premier du groupe, donc ils seront c'est toujours compliqué de jouer contre le pays hôte, même si on se dit bon, ils sont peut-être un peu plus faibles. Mais il faut être surmotivé, il faut avoir beaucoup plus de motivation qu'eux, beaucoup plus de tout en fait pour remporter ce match et surtout ne pas regarder ce que fait l'Afrique du Sud contre le Mexique.
Sur, la même heure,
surtout pas.
Bah ouais.
Mais voilà, marquer au moins deux buts de plus que l'adversaire.
Tiens, j'ai des conditions d'ailleurs pour accéder au quart de finale pour l'équipe de France.
Toutes les conditions?
Ouais. C'est pas fait, malheureusement.
Bah non,
je rappelle la situation du groupe. Vas-y. Le Japon a remporté ses deux premiers matchs. Hein.
Donc,
ils ont battu l'Afrique du Sud 1-0. Même pas encore officiellement.
Ah ouais, d'accord.
Mais ouais, parce que si nous on les bat par deux buts d'écart et que dans le même temps le Mexique gagne aussi contre l'Afrique du Sud, c'est le Japon qui saute. Donc le Japon, entre guillemets, doit prendre au moins un point pour être qualifié et sûr d'être premier, puisque le Japon est en tête avec 6 points. Deuxième, le Mexique, 3 points. Troisième, la France avec 3 points. Et dernière, l'Afrique du Sud avec 0 points. Pour que les Bleus soient qualifiés pour les quarts de finale, il faut une victoire par au moins deux buts d'écart, puisque dans ces cas-là, on passe devant le Japon. Donc quoi qu'il arrive dans l'autre match, eh bien on sera qualifié pour les quarts de finale.
D'accord.
Sinon, il faut une victoire et espérer une victoire de l'Afrique du Sud contre le Mexique. Bon, ça, après, l'Afrique du Sud a montré de belles choses, donc pourquoi pas, à la rigueur.
Oui, ça peut faire.
Ou alors, ça passe également avec une victoire et un nul entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Ça, c'est peut-être le scénario le plus probable. Tu vois, tu bats le Japon, on ne sait jamais, un but d'écart, et puis dans l'autre match, il y a un match nul. Bon, tu fais pas. Et si jamais on fait un match nul, la seule chance pour qu'on se qualifie pour l'écart, c'est que justement, l'Afrique du Sud batte le Mexique. Forcément, on aura les yeux rivés également sur ce match.
Eh oui.
Ça fait beaucoup d'inconnus. Mmh. Ce qui est un peu dangereux, c'est que effectivement le Japon a besoin d'un point, donc le Japon va prendre ce match très au sérieux. Quoi.
Ouais, mais c'est sûr. Même moi, je suis en train de me dire, c'est pour ça que je te posais la question tout
et
à l'heure. Au
début,
que...
tu te dis ça.
Ouais,
va,
je me dis,
fait,
c'est bon, ils sont qualifiés. Et finalement, non. Avec un, c'est, tu vois, par rapport à l'équipe qu'ils peuvent aligner demain, c'est clair qu'ils vont, bah, ils vont vouloir de toute façon aller au bout. Hein. C'est le pays hôte, c'est le pays où ils veulent aller chercher cette médaille d'or. En tout cas, aller le plus loin possible. Donc oui, ils vont tout mettre en œuvre pour remporter le match contre la France, voire même se qualifier. Et voilà.
La clé, c'est quoi? C'est régler nos problèmes défensifs. On a quand même encaissé 7 buts en 2 matchs.
Non, défensivement, ça se voit à chaque fois qu'il y a
une vague
de l'équipe adverse. On a un peu peur. Bernardoni, il a fait des arrêts essentiels.
Ouais.
Et c'est vrai que derrière, on est un petit
les joueurs se connaissent peu, d'ailleurs.
Oui, manque de communication, manque de tout. De toute façon, ça fait à peine 15 jours qu'ils se connaissent. Donc, forcément, ils jouent pas dans le même championnat tous en même temps. Et donc, les matchs sont quelquefois compliqués à regarder. Et maintenant, on va pas tout le temps non plus tenir ce même langage à chaque fois de dire, oui, mais ils se connaissent pas, ils sont ceci, ils sont cela. C'est quand même pratiquement tous des professionnels, des joueurs de haut niveau. À un moment donné, il faut se retrousser les manches et il va falloir que le sélectionneur aussi mette la meilleure équipe équilibrée pour porter ce match.
La chance qu'on a, c'est qu'on est porté par un André Pierre Gignac fantastique. 4 buts, c'est le meilleur buteur de la compétition. Il a mis un triplé contre l'Afrique du Sud.
Ah bah, il est pas venu pour rien, lui, en tout cas.
Ah, ouais,
il est conditionné. Ouais. Il a dit depuis, il a posé les pieds en France, de toute façon, à Clairefontaine. Il a dit, moi, j'y vais pas pour rien, j'ai pas envie de rentrer.
Exactement.
Et il le démonte sur le terrain. Alors, et on peut pas dire que c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est l'amener direction
qui met,
c'est le leader. Ouais, c'est ce qu'il met dans ses matchs. Tu le vois sur le terrain, il s'arrache à tous les ballons. Je l'ai vu faire des sprints à 34, 35 ans. C'est pas.
Dans l'attitude aussi.
Et dans l'attitude, il montre l'exemple. Et bah, tant mieux pour l'équipe de France. Et j'espère que les jeunes vont suivre derrière.
Je te propose d'écouter ce qu'en disait justement Paul Bernardoni du rôle d'André-Pierre Gignac. Paul Bernardoni qui était l'invité de l'After Tokyo 2020 au micro de Pierre Dorian. Écoutez.
Comme j'ai dit, papa a fait le boulot. Papa a fait le boulot, donc non, mais bien évidemment, c'est ça aide. Alors après, je veux pas, il y a pas que Dédé, bien évidemment. Je pense aussi, Lucas et moi, nous on est là depuis le début de cette campagne, donc depuis 4 ans, et donc automatiquement, on injecte aussi cette motivation. On fait comprendre que il y a une histoire aussi derrière ça, parce que c'est pas anodin non plus qu'on en soit là.
Voilà, Bernardoni qui parlait de lui et de Luca Tuzar également, qui sont un petit peu les symboles de cette génération espoir qui arrive aux Jeux Olympiques.
Parce que c'est les deux qui sont restés, qui sont qualifiés depuis 3-4 ans, c'est ça? 3
c'est
ans.
Ça. On rappelle que les joueurs hors catégorie d'âge, il y a Gignac qui est exceptionnel, il y a Savanier qui est bon quand même sur les deux matchs, même s'il y a une grosse défaite contre le Mexique, c'est le taulier du milieu de terrain. Mm. En revanche, il y a Florian Thauvin qui est plus en difficulté, Fred, depuis le début de la compétition.
Ah bah, je sais pas si là, en tout cas,
il a beaucoup de mal.
Déjà, avec sa fin de saison avec l'Olympique de Marseille, c'était compliqué. Ouais. Et là, il arrive. Il a fait aussi ce voyage en Mexique qui n'a pas été non plus pour l'aller-retour. C'est pas facile non plus. Il y a 5 ou 6 heures de décalage horaire. Tu reviens, même si tu as le temps de revenir. Et après, tu repars encore sur un long voyage. Donc, c'est peut-être pas ce qui fait qu'il rate un contrôle à 3 mètres ou même une passe. Mais ça peut y jouer. Mais c'est vrai qu'on ne reconnaît pas Florian Thauvin dans cette équipe.
C'est quoi la clé pour toi demain? Sur quoi doit s'appuyer Sylvain Ripoll? L'idée, c'est avant tout de bien défendre contre cette équipe japonaise, justement stopper l'hémorragie, parce que tu sais que tu auras des opportunités avec des joueurs comme Gignac. Il y en a d'autres qui sont très bons. D'ailleurs, Colomouani aime beaucoup, qui peuvent apporter des situations. Tu te dis, avant tout, les Bleus vont devoir s'appliquer à bien défendre, éviter de concéder des buts. Et quoi qu'il arrive, on arrivera à faire des occasions.
Je ne sais pas si c'est vraiment le discours qu'il faut tenir. Moi, si j'étais à la place de Sylvain Ripoll, déjà, j'aurais par rapport au nom qu'il y a dans cette équipe, j'aurais essayé de faire quelque chose d'équilibré, peut-être mettre aussi malheureusement Florian Thauvin sur le ouais. banc et mettre Nordin avec Colomoigny plus de percussions sur les côtés, avoir des dédoublements parce que Gignac aussi il aime bien, on l'a vu sur le premier but où il coupe au premier poteau, c'est ouais. aussi c'est une arme pour lui et il est très 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 bon devant le but et aussi voilà avoir cet équilibre dans le milieu de terrain, Savagnier, Touzard, c'est quand même pas trop mal quand même.
Ah ouais. Oui,
voilà, c'est donc sûr. devant cette défense à 4 où il va falloir être solide. Oui, Bernardoni, on le voit qu'il est concentré aussi, il ouais. fait des arrêts décisifs. Non, c'est vraiment trouver les bons joueurs pour ce match-là au bon moment et arrêter de faire taire les critiques ah parce oui. de te dire voilà, Ripoll au moins il a tenté quelque chose et qu'il a réussi et qu'on passe en quart de finale.
Je pense quand même que le scénario du dernier match, tu as été mené 3 fois, tu t'es imposé 4-3 dans le temps additionnel. Ça peut avoir un effet justement une augmentation du niveau de confiance. Est-ce que ça peut les rebooster pour ce dernier match face au Japon demain?
C'est ce que je me dis. Ouais. Et au niveau aussi collectif, quelquefois, on peut avoir des groupes qui se révèlent à travers des résultats comme celui-ci. Quand on va chercher un résultat à la dernière seconde et qu'on est super content et qu'on a vu le groupe vraiment se rassembler et être tous ensemble au coup de sifflet final, c'est ouais. ça qui démontre que le groupe vit bien et qu'il a envie de faire quelque chose ensemble. Mais demain, voilà, il va falloir passer quand même. Il va falloir être vigilant aussi dans le management de certaines personnes parce que forcément, on a des égos. Ouais. Si demain tu mets Thauvin sur le banc, ça peut grincer.
Après, Florent Thauvin, il doit s'en rendre compte qu'il est pas au niveau physique.
Ouais, mais quelquefois on s'en rend pas compte quand ouais. on est joueur. Tu sais, l'ego, il est.
Mais il a pas hésité à le sortir en cours de match.
Sinon. Ah bah non, mais ouais. à un moment donné, il faut quand même voir la vérité en face et ouais. et c'est clair qu'il fallait absolument le sortir. Mais voilà, je veux pas dire confiant, mais j'ai envie d'y croire.
T'as envie d'y croire. Ouais, on est heureux d'être encore en vie avant ce troisième match de poule. Juste rappeler qu'au niveau de cette équipe japonaise, il y a Hiroki Sakai qui est présent, l'ancien Marseillais oui. qui retourne jouer au Japon d'ailleurs. Il y a Yoshida également, le défenseur d'expérience. Et puis les deux stars, c'est Kubo qui appartient au Real Madrid et qui fait un tournoi olympique fantastique. Et l'autre joueur, c'est Doan qui est également un milieu offensif. Les deux joueurs qu'il faudra surveiller avant pour le match de demain qui sera à suivre à partir de 13h30 sur RMC. Donc France-Japon dans les directs. À suivre demain les moments importants, ce troisième match de poule du tournoi de foot olympique. 18h43, Fred reste avec moi dans un instant, le Mercato Show et le retour de Mamadou Sakho en Ligue 1. Soyez avec nous, à tout de suite.
RMC Football Show, Benoît Boutron.
Avec Fred Piquionne, légende de la AS Saint-Etienne, de l'Olympique Lyonnais, de tous ses clubs, évidemment. Du Nîmes Olympique, et oui, certains ne le savent pas, et tu as joué au Nîmes Olympique.
Ah oui,
et ouais.
en 2000.
Et ouais, légende de Doncaster.
De moi.
Voilà, les jambes de beaucoup de clubs qui est avec moi jusqu'à 20h dans
Mumbai City.
Dans un quart d'heure, effectivement, Mumbai avec comme entraîneur Nicolas Anelka. Ça, c'est ça. Pas. Dans un quart d'heure, on ira à Nice retrouver Clément Brossard sur la Côte d'Azur. Journée de présentation aujourd'hui pour le GC Nice. 4 recrues présentées. Il nous dira tout, Clément Brossard. Évidemment, ce sera juste après le Mercato Show.
RMC Mercato Show.
Avec Nico Pelletier qui est de retour. Nicolas, c'est l'info de la journée. On en a beaucoup parlé depuis quelques jours sur RMC, mais désormais c'est officiel. Retour de Mamadou Sakho en Ligue 1 à Montpellier.
Ouais, Mamadou Sakho est de retour en France. L'ancien défenseur du PSG retrouve la Ligue 1 8 ans après son départ pour Liverpool. L'international français qui compte 29 sélections et 2 buts. 2 buts importants, on s'en souvient.
Ouais,
et s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club héraultais où il portera le numéro 3 après une expérience difficile à Crystal Palace où il n'a le dispute que 6 matchs la saison passée. Sakho, qui arrive libre, va donc tenter de se relancer à Montpellier et surtout en espérant de laisser derrière lui les problèmes physiques qui l'ont perturbé ces dernières saisons. Et pour la petite histoire, il retrouvera le Parc des Princes le 26 septembre pour PSG Montpellier.
Ah, forcément, un rendez-vous qui doit lui tenir à cœur. Souvenez-vous de ses adieux mémorables au Parc avec ses larmes, évidemment, pour dire au revoir à son club de cœur. Lui qui a été capitaine du PSG sous Paul Le Guen à tout juste 17 ans. Donc c'est un vrai Titi parisien qui retrouve
la
Ligue 1.
C'était Paul Le Guen, t'es sûr?
C'est Le Guen, non?
Ouais, c'était pas Comboiré?
Ah, je crois que c'était Le Guen.
Déjà sous Le Guen.
Premier entraîneur.
D'accord.
Bon, à vérifier, mais il me semble que oui. D'ailleurs, on va en parler avec un supporter montpelliérain, c'est Baptiste qui nous a appelé au 32-16. Salut Baptiste.
Oui, bonsoir
Baptiste.
Baptiste, sur le papier, ça a tout pour être une belle opération. Le problème, c'est l'incertitude physique qui règne autour de Mamadou Sakho, quoi.
C'est exactement ça. Voilà, moi, j'avoue que j'espère me tromper, mais j'ai, je sais pas, une espèce de petit mauvais pressentiment. Alors, j'ai jamais eu de soucis sur l'homme et sur le joueur que j'ai toujours respecté. Hein. Un grand professionnel en équipe de France, c'était vraiment un rock à l'époque. Pas de soucis. Voilà, maintenant, quand je vois qu'il a joué 14 matchs il y a 2 ans et 4 ou 5 l'année dernière. C'est particulier, voilà. Je me dis qu'on a mis un gros salaire sur un joueur qui est en fin de contrat. Et à côté de ça, on passe à côté de Stambouli et de Belanda parce que, a priori, on n'a pas les moyens. Bon, voilà, moi, je suis sceptique. Mmh. J'espère que ça va le faire. Voilà.
Ouais, t'as enlevé 8 ans quand même, hein.
Comment?
Ah, par rapport à Ayton.
On a enlevé pratiquement 10 ans sur Ayton et tu as enlevé 8 ans sur Congré. Donc, oui, c'est plutôt un petit jeune dans la défense centrale.
Non, mais
Alors, après, si je peux me permettre de rajouter un petit élément, voilà, moi, je pense qu'on prend Sakho pour qu'il apporte un petit peu d'expérience et tout ça. Maintenant, je me dis que depuis 10 ans, on a un Vito Ayton qui remplit énormément la case d'expérience et qui, en plus de ça, sur le plan physique, est irréprochable malgré son âge. Il a fait entre 36 et 38 matchs la saison dernière encore. Ouais, il n'est jamais blessé. Ouais. Et le mec aurait très bien pu remplir cette case-là. Un salaire beaucoup, beaucoup moins important puisque dernière année, il était prolongé avec un salaire très, très faible à côté d'un Sakho qui doit émerger comme Milton, je pense.
Le petit souci, c'est qu'il y a un changement de coach. Et à un moment donné, quand il y a un changement de coach, je pense que si le coach d'Arzakarian était là, peut-être qu'il aurait forcé justement pour avoir Hilton un an de plus. Maintenant, vous avez...
Le nouveau coach est Dalloglio, on le rappelle.
Ouais, le nouveau coach est Olivier Dalloglio. Voilà, il y a un petit virage. Au lieu d'aller à droite, il est parti à gauche, lui. Il a dit merci à Vito Hilton, à mon avis, qui va rester quand même au club parce que on peut pas se séparer d'un joueur comme ça. Et ça serait bien justement qu'il puisse aussi rester proche du vestiaire. Alors, je sais pas comment c'est composé, hein, le staff d'Olivier Dalloglio, mais j'aimerais bien, moi, que Hilton reste au club et surtout qu'il soit aussi très très proche du vestiaire. Alors, je sais pas s'il va être entraîneur des défenseurs ou quelque chose comme ça, mais ça peut être
le lien entre l'équipe et le staff.
Exactement. Et ça peut être intéressant d'avoir ce genre de joueur, en tout cas, au club.
Mais Fred, pour en revenir à Mamadou Sakho, on le disait, beaucoup de blessures musculaires, des blessures qui l'ont éloigné longtemps des terrains. Il s'est blessé, je crois, en janvier ou février. Il n'a pas rejoué sur la fin de saison avec Crystal Palace.
Ouais,
c'est vrai que là, il y a une incertitude. Quand les pépins musculaires s'accumulent, c'est Coach Courbis qui dit ça, un joueur qui démarre une carrière très tôt, 17 ans pour Sakho, qu'on a 31 aujourd'hui. On le voit avec Serge Fabregas.
Et c'était bien Paul Le Guen.
C'était bien Paul Le Guen. Tu vois, c'est... On comprend les doutes des supporters
Montpellier. Bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations parce que c'est un joueur qui arrive de première ligue. On connaît l'exigence aussi de la première ligue. Maintenant, il arrive dans le championnat de France où il va être attendu. Mamadou Sakho, un international qui revient à Montpellier, ça se fait pas tous les jours. Mais moi, je pense que si il y a eu une batterie à la visite médicale, il y a eu une batterie d'examens et je pense que s'ils ont validé la venue et si, Sinon, il l'aurait pas signé. Je pense pas que tu peux prendre de risques avec un salaire aussi important pour un club comme Montpellier.
D'ailleurs, Baptiste, supporter montpellier, est-ce que tu as vu la vidéo de présentation sur les réseaux sociaux de Mamadou Sakho? On le voit en train de faire des exercices physiques, quoi. C'est un peu pour rassurer tout le monde. T'as vu ça?
C'est exactement ça. On sent que le community manager, il est venu mettre sa petite touche pour rassurer tout le monde.
Exactement. Tu te mets sur une machine de fitness et tu prouves que t'es en forme, quoi. C'est ça.
Voilà.
Mais est-ce que ça prouve que Montpellier a des ambitions pour toi, Baptiste? Est-ce que ça veut dire que Montpellier joue clairement l'Europe sur la saison à venir avec une belle ossature?
Absolument pas. On n'est pas du tout dans ça. Je crois Montpellier, la saison qui arrive, ça va être une saison de transition. Mmh. On va être sur une saison où on va relancer pas mal de jeunes. Et on va essayer aussi de garder le maximum de joueurs, je pense. Même si on sait que Laborde et Mollet vont sûrement partir, peut-être Ferry également. Ouais. Mais si Dalloglio est arrivé à Montpellier, c'est lui qui a été choisi. C'est, je pense, principalement pour venir lancer et essayer de construire une équipe un peu plus jeune et se baser sur centre de formation pour les prochaines saisons. Concrètement, avec le Covid et la crise sanitaire, je crois que Montpellier a été obligé de revoir un petit peu ses ambitions européennes un peu à la baisse. Donc, je pense qu'on va jouer les 10-13e places, là, voilà, top 10, top 13, pas plus, quoi.
Ah, il était pas très...
Et d'ailleurs, la Borde, on est où, là?
Voilà.
Parce bah, que
Laborde, aussi, Laborde, c'était, il a annoncé partant.
C'était l'un des premiers dès la fin du championnat qui était annoncé partant.
Ouais.
On est quand même fin juillet. Alors oui, il reste encore du temps, mais moi, on l'envoyait plus à l'étranger que dans le championnat de France.
On en parlait en Angleterre, mais pour l'instant, il est toujours là.
C'est dur.
Effectivement, il faudra suivre tout ça. Merci Baptiste d'avoir été avec nous.
Si je peux me permettre, faire la bise à mes collègues de boulot et dire aussi à Pierre et à Jean-Louis, notamment, que c'est dans la défaite qu'on apprend le plus et qu'ils comprendront. Voilà, merci à vous, bonne soirée.
On va le message passer. Merci Baptiste, à bientôt sur RMC. Il y a d'autres actualités au niveau du mercato, Nico, notamment à Bordeaux. On sait que Bordeaux est en passe d'accueillir un nouvel entraîneur, Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse, donc qui va démissionner pour arriver chez les Girondins. Bordeaux avance également sur le mercato des joueurs, Nicolas.
Ouais, c'est une info de Loïc Tanzi. Les dirigeants bordelais qui ont ciblé Anthony Robinson, le latéral gauche de Fulham, pour renforcer leur défense. Ça, l'Américain de 23 ans souhaiterait poursuivre en Première Ligue pour continuer à croire en ses chances d'être appelé en équipe nationale. Mais Bordeaux négocie actuellement un prêt avec option d'achat. Ouais. Mais pour le moment, c'est le salaire du joueur qui pose problème. Et la petite histoire qui m'a été soufflée par Hamza Ramani, c'est qu'en janvier 2020, le joueur était très proche de rejoindre l'AC Milan. Le défenseur s'était même rendu en Lombardie pour y signer son contrat, mais sauf qu'un problème avait été détecté lors de sa visite médicale et donc il n'avait jamais signé en Serie A.
Ok. De toute façon, le prêt avec option d'achat, Bordeaux va devoir y avoir recours pour renforcer son effectif, Fred. Hein. C'est une des solutions pour.
Ça va être une grosse solution, exactement, parce que quel est le meilleur joueur de Bordeaux aujourd'hui qui peut être mis sur le marché et a une forte.
Je pense que la plus grosse valeur, c'est
peut-être Basic, mais combien? Ça va pas être non plus. Ça va pas être
10,
un bleu.
Il va falloir les additionner. Hein.
Donc voilà.
Et puis surtout les clubs acheteurs sont pas bêtes, ils savent que Bordeaux doit vendre, donc ils vont proposer des prix au rabais.
Finalement. Exactement. Donc si on veut un petit peu d'argent, on va forcément avoir des prix au rabais. Et puis l'option d'achat, le prêt avec option d'achat, c'est ce qu'il faut aujourd'hui.
Tiens, Fred, toi qui suis assidûment la Première Ligue, une info qui tombe de Loïc Tanzi. Alors que la piste menant à Jean Lucas, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, n'avance pas vraiment pour Monaco, les Monégasques explorent en ce moment le dossier Joe Willock. Anglais de 21 ans, il appartient à Arsenal jusqu'en 2023. Il était prêté à Newcastle la saison dernière. Ouais. Il a déjà un CV solide puisqu'il a 54 matchs de Première Ligue disputés. C'est le profil recherché par Monaco pour en fait relayer la fameuse paire Fofana-Tchouaméni avec les compétitions qui vont s'accumuler. La Coupe d'Europe, on ne sait pas encore si c'est Ligue des Champions ou Ligue Europa.
Je ne sais pas s'il a le niveau Ligue des Champions quand même.
Ouais.
Je ne sais pas.
C'est un joueur que tu connais?
Oui, en suivant la Première Ligue.
C'est quoi profil, quoi? Relayeur?
Non, c'est un battant, c'est un joueur qui est capable de récupérer les ballons dans les pieds, plus etc. C'est plus un numéro 6. Maintenant, je sais pas s'il a vraiment le niveau pour jouer la Ligue des Champions et Monaco.
Tout jeune, à 21 ans, affaire à suivre. En tout cas, vous avez toutes ces infos sur rmcsport.fr. Monsieur Pelletier, merci.
Merci à vous.
Bonne soirée et donc évidemment on se retrouve demain pour de nouvelles infos Mercato. 18h55 sur RMC dans un instant, on file sur la Côte d'Azur, là on les présente les recrues officielles. Mario Lemina a été présenté tout comme trois joueurs néerlandais. On vous dit tout dans un instant avec Clément Brossard, à tout de suite.
RMC Football Show.